Chapitre 5. Dans le chapitre précédent, nous avons vu le Seigneur Jésus s'avancer dans la puissance de l'Esprit pour annoncer la grâce de Dieu et se heurter immédiatement à la réjection de la part de l'homme. Nous avons vu que, malgré tout, le Seigneur ne se laisse pas détourner de son travail de grâce. Ce chapitre-ci nous offre maintenant une série de délicieux tableaux qui illustrent ce que la grâce accomplit chez ceux qui la reçoivent. Quatre hommes paraissent devant nos yeux. Pierre, le lépreux, le paralytique, Lévi. Chacun marqué d'un caractère différent. Ils se suivent dans un ordre qui est moral, non rigoureusement chronologique. Matthieu et Marc nous racontent tous deux comment le Seigneur a appelé les quatre pêcheurs à devenir ses disciples, mais Luc seul nous fait part de la pêche miraculeuse qui fit une si profonde impression sur Pierre. Le Seigneur avait employé la barque de Pierre et ne voulait pas être son débiteur, mais c'est la grâce qui, en retour, répand sur Pierre un si riche bienfait. Cela est d'autant plus saisissant que les pêcheurs venaient de se dépenser toute la nuit en efforts complètement stériles. Maintenant, ce n'est pas seulement l'abondance, mais la surabondance. Là où de vains efforts s'étaient multipliés, là se multiplient les prises du filet. La seule ombre au tableau vient de leur faible capacité à retenir ce que la grâce a donné. La barque de Pierre est sortie deux fois sur le lac, une fois de nuit, quand on pouvait compter sur du poisson, une fois de jour, quand on n'y comptait pas. L'endroit est le même, les deux fois, et les mêmes hommes, avec le même matériel. D'où vient la différence? D'une chose, d'une seule. Christ était monté dans la barque. Les yeux de Pierre furent ouverts à ce fait, et il est clair que cela fit briller le Sauveur devant lui d'une lumière qui venait de Dieu. Se trouver en la présence de Dieu, même si c'est Dieu présent dans la plénitude de la grâce, produit dans le cœur de Pierre la conviction de son état de péché. Or, c'est la première chose que la grâce apporte avec elle, la conviction de péché. Elle la produit d'une façon bien plus profonde que ne le fit jamais la loi, et elle attire, tout en produisant cette conviction de péché. Là se trouve ce merveilleux contraste. La loi de Moïse, lorsqu'elle fut donnée au Sinaï, amena le peuple à sentir sa carence, mais cela les repoussa et les éloigna de la montagne brûlante. La grâce, dans la personne de Jésus, amena une telle conviction chez Pierre qu'il confessa son état de péché et se jeta pourtant aux genoux de Jésus, s'approchant du Sauveur autant qu'il le pouvait. L'incident suivant, suite très appropriée, concerne un homme qui n'est pas à proprement parler rempli de péché, mais plein de cette lèpre qui est un type du péché. Il était si plein de lèpre qu'il sentait qu'il offrait un aspect trop repoussant pour pouvoir vraiment compter sur la bonté de Jésus. Il était convaincu de sa puissance, mais incertain quant à sa grâce. Aussi s'approche-t-il en disant « Si tu veux ». Il révèle ainsi que son corps est plein de lèpre et que son cœur est plein de doute. Immédiatement, la grâce du Seigneur montre sa pleine mesure. Sa parole était toute puissante. Pourtant, le Seigneur étend la main et le touche, comme pour effacer à jamais de l'esprit du lépreux le dernier doute qui persisterait, et pour le tranquilliser parfaitement. Nous voyons donc ici que la grâce apporte la guérison, une guérison que la loi n'apportait pas, bien qu'elle contînt des instructions pour que les sacrificateurs puissent reconnaître toute guérison qui serait opérée par la puissance de Dieu. Ici, la puissance de Dieu est à l'œuvre dans la plénitude de la grâce. Scène merveilleuse en vérité. Nous ne sommes pas surpris que de grandes foules se soient assemblées pour l'entendre et pour être guéries. Verset 15. Ne négligeons pas le verset 16. Jésus a pris la place de l'homme qui se tient devant Dieu et agit dans la puissance de l'Esprit. La grâce a découlé, abondante, de sa personne, et il consacre du temps à la communion dans la prière, loin des lieux fréquentés par l'homme, avant de reprendre contact avec les besoins humains. Ensuite vient le cas de l'homme frappé de paralysie et réduit à un état de complète dépendance. Il n'est rien dit quant à sa foi personnelle, quoique la foi montrée par les hommes qui apportent le malade soit extraordinaire et active, et le Seigneur y répond abondamment. Les pharisiens et les docteurs de la loi qui sont là forment une sorte de sombre arrière-plan au tableau. Ils avaient de nombreux besoins, et la puissance du Seigneur était là pour les guérir, puisque la grâce apporte ses abondantes ressources avec générosité et pour chacun. Pourtant, ils sont là pour donner et non pour recevoir. Ce qu'ils apportent, ce sont des critiques, et encore se révèlent-elles erronées. Ils lancent violemment leurs critiques et passent à côté de la bénédiction. C'est le paralytique qui reçoit la bénédiction, et la puissance lui est accordée. C'est précisément ce dont il a besoin. L'homme, plein de péché, a besoin non seulement de la purification de ses péchés, mais de puissance sur le péché, cette puissance étant liée au pardon. Dans le cas de cet homme, sa paralysie était manifestement le résultat du péché, et le Seigneur s'attaque à la racine du mal avant de s'occuper du fruit. C'est toujours ce chemin que suit la grâce, car il n'y a jamais rien de superficiel dans la façon dont elle agit. Les pharisiens, avec toutes leurs critiques, ne pouvaient pas plus délivrer le corps du malade de l'emprise de sa paralysie qu'ils ne pouvaient délivrer son âme de la culpe de ses péchés. Jésus peut faire l'un et l'autre, et il démontre qu'il a la puissance d'accomplir le miracle du pardon, ce que l'œil humain ne pouvait observer, en accomplissant le miracle de la guérison devant leurs yeux. Les pharisiens avaient bien raison de croire que personne ne peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul. Mais lorsqu'ils entendent Jésus remettre les péchés, ils l'accusent d'être blasphémateur. Nous, nous en déduisons que Jésus est Dieu. Chacun de nous se trouve obligatoirement devant ce choix net et bien défini, et heureux sommes-nous si nous choisissons bien. La guérison dont cet homme est l'objet lui est accordée d'une façon divine. Il se lève, ayant retrouvé ses forces, capable, à l'instant, de prendre son petit lit et de s'en aller dans sa maison, ce qu'il fait en glorifiant Dieu. Les spectateurs sont touchés de la même façon. La grâce, lorsqu'elle se manifeste, conduit en effet à glorifier Dieu. En quatrième lieu, Lévi paraît sur la scène. Il montre que la grâce pourvoit le cœur d'un objet. Lorsque Jésus l'appelle, Lévi est occupé à un travail agréable, celui de recevoir de l'argent. Aussitôt son esprit et son cœur se détournent de cet argent et il se met à suivre le Seigneur, si bien que nous le voyons ensuite agir à l'opposé. Il distribue son argent, donnant aux nécessiteux, selon le psaume 112, verset 9, il répand, il donne aux pauvres. Lévi invite une grande foule de publicains et d'autres gens à son festin, montrant que ses pensées se sont mises immédiatement à l'unisson de celles de son nouveau maître et qu'il avait saisi l'esprit de la grâce. Christ, pourtant, est le vrai objet du festin. Car il est dit, Lévi lui fit un grand festin dans sa maison. Verset 29. Les pharisiens étaient totalement insensibles à cet esprit de grâce, mais leurs objections ne servent qu'à faire proclamer par le Seigneur ce merveilleux message « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Verset 32. Tout ce que nous avons dit pourrait se résumer ainsi. La grâce produit la conviction de péché, et ensuite opère la purification du péché. Puis elle confère la puissance, et de plus rend celui qui la reçoit conforme à celui qui en est l'expression. Christ devenant l'objet du cœur de Lévi, nous voyons comment celui-ci commence à être imprégné de l'esprit de son maître. Depuis le verset 33 et jusque dans le chapitre 6, un autre point est assez nettement mis en relief. C'est que la grâce fait sortir de l'esclavage et conduit à la liberté. Les pharisiens dédaignaient la grâce et étaient fort attachés aux jeûnes, aux prières et aux cérémonies prescrites par la loi. La loi produit l'esclavage, mais la grâce apporte la liberté. C'est ce que nous enseigne longuement l'Épître aux Galates. La pleine vérité exposée dans cette épître ne pouvait pas être révélée avant la mort et la résurrection de Christ, ni avant que l'Esprit ait été donné. Pourtant, nous voyons ici le Seigneur commencer à parler des choses qui, dans un proche avenir, allaient être clairement manifestées. Il emploie des paraboles ou des illustrations, mais sa pensée est claire. Étant le vrai Messie, il est l'époux, et sa présence auprès de ses disciples les empêchait d'être assujettis aux contraintes indiquées au verset 33. Puis, un peu plus loin, le Seigneur introduit quelque chose de nouveau. En lui, la grâce de Dieu commence à rayonner, et, comme un morceau de drap neuf, on ne pouvait pas s'en servir comme d'une pièce à mettre au vieil habit de la loi. Le tissu neuf imposerait une telle fatigue au vieux tissu qu'il le déchirerait. En outre, le neuf et le vieux ne s'accorderaient pas. Ils se révéleraient tout à fait incompatibles. Puis, nouvelle illustration, la grâce, par sa force, peut être comparée à l'action du vin nouveau, tandis que les formes et les ordonnances de la loi ont le caractère rigide de vieilles outres. Si l'on essaie d'enfermer le vin nouveau de la grâce dans la vieille outre de la loi, on peut être sûr d'une catastrophe. Il faut trouver des vases neufs, capables de contenir la puissance nouvelle. C'est de cette façon remarquable que le Seigneur montre que la grâce de Dieu, qui était venue en sa personne, allait produire ses propres conditions nouvelles, et que les ordonnances charnelles, instituées en Israël sous la loi, n'étaient imposées que jusqu'au temps du redressement. Hébreux 9, verset 10. Mais en même temps, le Seigneur montre que les hommes, par tempérament, préfèrent la loi à la grâce. Le vieux vin leur convient mieux que le nouveau. Il y a une raison évidente à cela. Le fait même de donner la loi à l'homme suppose qu'il peut être capable de l'accomplir, tandis que la grâce est offerte sur le fondement éprouvé que l'homme est une créature irrémédiablement perdue.